à la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC.
Voilà, il est donc 2h du matin, vous l'avez entendu, il est 21h ici à Rio. Et Isabelle, tu es accompagnée de Thomas Bouaille qui est avec nous au Club France. Salut Thomas.
Salut. Vice-champion olympique au saut de cheval à Pékin, Thomas Bouaille, champion du monde, enfin vraiment un gros palmarès de la gymnastique française. Et c'est vrai qu'en gymnastique, on a eu quand même un gros phénomène qui s'appelle Simone Biles et qui est américaine. Ah, oui. Donc 4 médailles d'or, une médaille de bronze. Et là, le truc, c'est que quand même, c'est Michael Phelps qui a été porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture. Et là, à la clôture, c'est Simone Biles qui va le faire, Thomas.
Ouais, voilà, c'est Simone qui est à la cérémonie de clôture. C'est mérité, hein. Vraiment, c'est une gymnaste exceptionnelle, elle est hors norme. C'est une extraterrestre, hein. Franchement, pour nous, gymnaste, elle nous a impressionnés. Et c'est vrai que voilà, 4 médailles d'or et une médaille de bronze, parce qu'elle a raté à la poutre, hein. Sinon elle serait sortie avec 5 médailles d'or. Donc voilà, mais bon, après Simone Biles, Michael Phelps, hein, c'est le même agent, hein, c'est la même école. Donc du coup, elle nous réserve plein d'autres surprises, hein, pour la suite.
On peut pas s'en trouver une française, une Simone Biles.
Si, on la cherche, bien évidemment, hein, on la cherche. Bon, on l'a pas trouvé encore, mais c'est pas faute de travailler dur à l'entraînement.
On la cherche pas sur Tinder en tout cas.
Ouais, ça, c'est sûr. Parce que sinon on aurait trouvé Isa apparemment. Donc, Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on travaille dur et puis c'est pas démérité, hein, nos Françaises. Hein, Marine Boyer a fini quatrième, hein, elle était pas loin d'un podium olympique. Donc non, il y a du travail qui est effectué, mais c'est vrai que les Américaines en général en gymnastique ont survolé.
Un petit bilan juste Thomas là sur, ouais, sur la gymnastique française, parce qu'on a eu quand même de bons résultats, même si pour la première fois il n'y a pas de médaille depuis 2004. Donc quand même.
C'est un échec ou pas?
Alors, un échec, oui, forcément, il faut pas se voler la face à un échec, il n'y a pas de médaille olympique, donc oui, c'est un échec. Après, non, ça... Allez, on va dire non.
Deux quatrièmes places.
Donc un peu volé, on va dire, un peu sur. Voilà, c'est du jury humain, la gymnastique, on connaît le patinage, on connaît les sports humains, donc c'est compliqué. Mais pour faire un bilan, je pense qu'on a plutôt bien travaillé. On a été bien représentés sur les finales du concours général avec deux Françaises et un Français. Sur les finales individuelles, on a eu trois finales, deux quatrièmes places, une septième place. Donc voilà, on a été bien représentés sur le plan international, mais c'est vrai que de rentrer sans médaille, c'est un peu décevant. Et puis on a quand même eu un gros coup dur émotionnellement parlant, et voilà, pour la sécurité d'un gym avec Samira El Saïd, voilà, à qui on souhaite un prompt rétablissement bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu pas mal d'émotions entremêlées et un bilan mitigé. On est content parce que c'est jamais évident de monter sur un podium olympique, c'est une compétition à part, c'est pas un championnat du monde.
Et ils ont tous fait le job en fait, c'est ça qui est un peu décevant, ouais. C'est qu'ils ont fait le job et que normalement en faisant le job, ben, il y avait quand même des médailles qui étaient possibles à atteindre. Et comme le disait Thomas, le jugement a été notamment pour les deux quatrièmes places un petit peu difficile. Et puis ben, le coup dur de Samir, hein, qui a ému le monde entier, hein. Je vois sur Twitter, ouais, la toile vraiment s'enflamme, ouais, pour Samir. Et limite on en rigolait avec Samir et même Thomas. C'est-à-dire que tu aurais fait une médaille, peut-être même moins connue que d'avoir fait ça, et ça t'apporte une notoriété et peut-être un élan et un souffle pour,
ouais, enfin, si, pour Tokyo. À choisir, je pense qu'il aurait préféré une médaille et moins de notoriété, non? Malgré tout.
Non, mais c'est sûr qu'on vient ici pour une médaille, c'est vrai. Par contre, ouais, le seul point négatif, hein, de ça, c'est qu'il faut pas oublier que ça a donné une image négative de la gymnastique. La gymnastique, c'est pas un sport dangereux. Quand on maîtrise ce qu'on sait faire, on prend pas de telles blessures. Donc il faut remettre aussi le cadre à cette blessure. C'est pas juste Samir qui s'est blessé gravement, c'est aussi l'image qui a donné Samir du sport à risque et de la gymnastique, qui est à mon sens un peu fausse.
Comment s'est comporté notre petite Auréane Leschenot? On l'avait reçue la veille des Jeux Olympiques. Elle était venue toute seule, tranquille, là, dans le studio où vous êtes actuellement, nous expliquer qu'elle était super contente d'être là, la petite gamine, donc 15 ans, hein, on le rappelle.
Ouais,
donc
comment, ans, ça, s'est pas, de la
comment ça s'est passé
française
pour elle?
Non, mais ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'à 15 ans, on ne se rend pas vraiment compte, hein, de l'impact de ces Jeux Olympiques. Mais en tout cas, j'ai pu la croiser, moi, après sa compétition. Elle avait des étoiles plein les yeux, elle a qu'une envie, c'est de rebondir et d'aller jusqu'à Tokyo. Donc c'est ce qu'on lui souhaite. Et puis effectivement, il y a eu un peu d'erreur, une petite chute, mais bon, on peut pas lui porter rigueur. Elle est toute jeune, elle est pétillante, elle a qu'une envie, c'est de montrer son potentiel, et elle en a, je vous l'assure. Donc on la reverra assez vite, hein, sur les prochains championnats d'Europe et championnats du monde, sans aucun problème.
Thomas, merci d'être passé.
C'est toujours un plaisir.
À très bientôt. Et Thomas qui était consultant ici à
France Télévisions, oui.
À Tokyo.
Ouais, pour France Télévisions.
Bon, écoute, à très bientôt, tout simplement.
C'est gentil, avec grand plaisir.
Bye bye, et merci Isabelle.
Ciao, ciao.
Et à tout à l'heure, Isabelle, avec d'autres amis, tu veux nous emmener au micro. Là, ce soir, on est là, c'est l'antenne ouverte.
Je suis au Club France et je vais chercher un petit peu tout le monde là pour qu'on revive encore toute cette quinzaine avec de bons moments et surtout de grands champions qui viennent nous apporter leur expertise avec leur gentillesse, parce que c'est vrai que là, tout le monde est un petit peu fatigué, mais ils sont quand même ravis de venir au micro d'RMC, et ça fait plaisir.
Ben super, ben à tout à l'heure avec d'autres invités, on vous attend, toi et Olivier, bien sûr, quand vous voulez. Alors que nous, ici, là, les athlètes sont tous là maintenant, Georges et Nico, ils sont tous placés sur des dizaines de chaises en plastique qu'on a disposées tout autour du terrain du Maracana.
Oui, et les drapeaux qui étaient disposés au centre du terrain sont en train de sortir maintenant, puisque tous les athlètes sont là. On a vu les Français il y a quelques instants. Elodie Clouvel, notamment, la médaillée d'argent du pentathlon moderne que certains ont découvert sur ces Jeux Olympiques, étaient là. On a vu Jérémy Stravius également. C'est-à-dire que lui, il est resté là pendant tous les Jeux Olympiques. Hein. Jérémy Stravius qui est médaillé sur le relais 4x100.
On l'a vu beaucoup dans les sports co. Apparemment, il aime bien les sports co. Il allait voir les matchs et tout.
Donc, il était là. Alors, c'est un peu l'artifice est en train d'être tiré là au-dessus du Maracana. Au-dessus du Maracana avec l'inscription au-dessus de l'arène, l'inscription Rio 2016 en vert et jaune qui est apparue avec ses feux d'artifice. Vous avez entendu les musiques formidables, les musiques électroniques d'il y a quelques instants de Kygo qui est un artiste norvégien. On a entendu il y a quelques instants tous les groupes brésiliens. Vous avez entendu derrière nous les groupes de musique électronique. Maintenant c'est un groupe norvégien qui vient se produire juste devant nous avec DJ Kygo qui est là en train de mixer au milieu du Maracana.
Il a plus une voix de DJ, non? Je sais pas,
Georges.
On se retrouve ce soir.
Regarde, il fait bien.
Bah,
à force de faire des soirs avec Cyril Guimard.
Alors là, c'est immense dance floor. Ça y est, hein, le Maracana est en train de se transformer en dance floor avec des lumières un peu 70s. Avec des athlètes là, on voit David Rudisha notamment sur les écrans géants. On a vu également Daphné Skippers, la néerlandaise. Tout le monde a joué le jeu.
Ah, on a vu le tongien là, vous savez Pita là, celui qui est arrivé tout vilé à la cérémonie d'ouverture. Bon, il s'est fait dégager
le porte-drapeau là.
Il s'est fait sortir le tour de taekwondo au premier tour. Hein. Au revoir. Ouais. Mais finalement, lui, son truc, ça a été la cérémonie d'ouverture.
Ouais.
Le tongien.
En même temps, oui. Il était un peu insaisissable avec toute cette ville.
Oui.
Alors que tenue totalement curieuse de la chanteuse que vous écoutez actuellement, Julia Michael, tout de vert vécu dans
une combinaison verte.
Elle est de l'Iowa américaine, Davenport. Voilà.
Alors, il va y avoir un moment un peu d'autopromo du CIO ensuite, puisque en fait, cette chanson est le début du lancement de la chaîne olympique, puisque le CIO va lancer une chaîne de télé. La chaîne olympique qui sera une nouvelle chaîne de sport qui sera disponible sans doute en France à terme sur certains bouquets satellites ou câbles, où en fait alors vous n'allez pas avoir du sport en direct, mais vous allez avoir des programmes dédiés au développement du sport, peut-être des best-of des meilleurs moments des Jeux Olympiques du passé.
Ce sera sur une plateforme vidéo type streaming, hein, évidemment, un peu comme YouTube visiblement pour voir certaines disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les grandes chaînes peut-être en télévision.
Voilà pour cet Olympique Channel qui va être lancé dans quelques instants.
Est-ce que Pelé sera présent, Gilbert?
Il a dit qu'il sera là.
Qui sera là. Il avait manqué la série d'ouverture parce qu'il était encore pas tout à fait remis de sa double opération à la hanche. Alors on va voir s'il est annoncé ici. Il a tweeté également, enfin en tout cas la personne qui gère son compte Twitter a laissé planer le suspense pour l'instant. Mais bon, ce serait une immense passion s'il arrivait, Pelé. Le grand absent de la série d'ouverture.
Messieurs, dames. Ah, The Olympic Channel. Donc, bah voilà, la fameuse chaîne là.
Pour envoyer des CV ou pas?
Qu'est-ce qu'on va nous montrer? Ça te permet de travailler en Suisse?
Non, mais non, de la communication.
Alors maintenant, on va repasser après les petits moments de promotion pour le CIO et la chaîne Olympique. On va revenir maintenant sur un moment un peu plus artistique de cette cérémonie d'ouverture où on va découvrir dans quelques instants un archéologue, visiblement, avec sa petite loupiote là qui est en train d'illuminer tout le terrain du stade Maracana qui a été recouvert d'un un drap blanc où l'on voit des peintures préhistoriques. On a vu des mains, notamment sur des mains d'anonymes, notamment des Brésiliens qui ont été prises. Et on voit plusieurs danseurs qui sont en train maintenant de rentrer sur le centre du terrain, habillés en rouge avec du jaune également avec eux. Donc là, on est revenu dans une phase un peu plus de spectacle de cette cérémonie de clôture.
Oui, alors ça rappelle
ambiance tribale presque. Hein.
Voilà, c'est ça. Les différents tableaux brésiliens, en l'occurrence, symbolisant là, en l'occurrence, les populations primitives du Brésil. Mon cher Jean-Claude Narcy, Georges Quirino, mon cher Léon Zitrone, Nicolas Jamin,
Stéphane Bern ou
Stéphane Bern,
qui d'autre? Alors, tu l'as dit, c'est divers. C'est Rosa Magalhães qui est le cerveau artistique de la cérémonie.
Non, je l'ai pas dit.
De clôture, hein, qui est extrêmement célèbre, puisqu'elle dirige l'école de samba la plus prestigieuse de Rio. Elle a gagné 5 titres consécutifs, hein, de championne du monde de samba.
Ah, c'est pas mal.
Donc c'est la référence, c'est la Michael Phelps de la samba ici à Rio.
Pas mal.
Comment ça marche, championnat du monde de la samba?
C'est un défilé en fait, c'est un défilé au Sambodrome à Rio.
En fait, c'est les écoles de samba qui
défilent. Et après, les meilleurs de chaque école sont félicités, et les meilleurs chorégraphes de chaque école sont récompensés, et c'est le cas de Rosa Magalhães.
Et qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes un maillot arc-en-ciel quand tu es champion du monde? C'est quoi le
championnat? Toi, tu as été au Sambodrome, mais pour le tir à l'arc, quoi.
Exactement, et pour le marathon aussi, hein, le Sambodrome qui est aussi le lieu de départ et d'arrivée du marathon. Et effectivement, le tir à l'arc, on a vu Jean-Charles Valadon.
Exactement.
Notre Français décrocher une belle médaille d'argent.
Alors, elle a promis, Magalhães, qu'elle n'y aurait pas la nudité frontale, comme elle l'a dit, comme au carnaval. Hein. On ne verra pas des hommes et des femmes quasiment dénudés, quoi.
Alors, c'est CEO qui a demandé ça.
Ah oui,
priori, c'est le CEO qui aurait demandé à ce qu'on ne voit pas des gens nus sur scène.
Ça veut dire les danseuses de samba en string, quoi, c'est ça en gros?
Voilà, en fait, c'est ça.
Bon, alors en même temps, c'est le Brésil, hein, tu vois?
Oui, mais bon, ça regardait dans le monde entier, peut-être que, tu vois, il y a ce puritanisme
olympique.
Olympique.
Le puritanisme olympique, c'est intéressant. Puisqu'on parlait de tir à l'arc et qu'on parlait de médailles, on va se réécouter quelques-uns des grands moments de ces Jeux Olympiques. Vous allez peut-être pouvoir vous réentendre, messieurs. Tiens, ouais, on va revivre un grand moment. C'était la médaille d'or d'Émilie Andéol. Vous vous souvenez? Chez les poids lourds. Au judo, c'était le 12 août dernier, c'était un des grands moments parce que c'était la journée où Teddy Riner était en compétition, donc tout le monde attendait évidemment Teddy Riner, il n'attendait que lui, et hop, Émilie Andéol le même jour, personne l'attendait, elle, et elle est sur la plus haute marche du podium, et Morgan Karate Kid Mori était en fusion, comme d'habitude, on réécoute.
Il y a une analyse vidéo en cours, je n'ai pas accès à l'écran pour l'instant.
Alors,
il a demandé
aux deux
judo 4 aux deux judokas de se rhabiller. Ça veut dire que l'analyse vidéo en cours, il y a les classiques de l'arbitrage qui sont devant leur écran. Ils vont nous dire si Émilie a bien poussé à Chivas Wadori. Elle est en finale olympique. C'est incroyable. La petite Andéol, elle a renversé la muraille de Chine. Elle est en finale des plus de 78 kilos. Ça, c'est un exploit. Bravo Émilie. En finale, elle a battu la championne du monde. Incroyable. Émilie Andéol qui essaye de libérer son bras droit. Elle le place derrière la tête de la cubaine et la jette sur le dos. Pas d'action, mais elle peut continuer au sol. Elle peut l'immobiliser. Elle l'a immobilisé. Il faut tenir 10 secondes et être championne olympique. La française va être championne olympique. C'est un exploit incroyable. Elle a rendu les armes d'Ali Santis. Christophe Bastida qui est déjà debout. Émilie Andéol, championne olympique des plus de 78 kilos. Qui l'eût cru? C'est incroyable. C'est la plus légère des poids lourds. Jean Mestras, incroyable, elle est en train de pleurer et qui est souvent émotive, qui craque dans les grands moments. Elle a battu les plus grands de la catégorie. Incroyable, il y a des supporters français qui sont en pleurs. Idalis Sortis, la cubaine grande championne, le visage impassible qui reconnaît sa défaite. Émilie qui sourit, elle est championne olympique des plus de 78 kilos. Les judokas, ils avaient démarré doucement, mais là, c'est le feu d'artifice. Allons, enfants du tatami.
Très très fort.
Allons enfants du tatami, la ligne.
Ouais. Ah, j'ai pas.
Je me rappelle avoir été très inquiet parce que c'était quoi? C'était même pas une heure avant le combat de Teddy Riner.
Ouais.
C'était quoi? Trois quarts d'heure? Je me suis dit, mais Morgan, en fait, on l'aura pas. on l'aura pas pour le mandat de Federino, il aura plus de voix. Ah non, mais il tient le coup.
Tiens, je signale parce qu'on me l'a envoyé sur Twitter, notre ami de Sarreguemines est là. Hein. Il avait réussi encore à placer son drapeau pile à la sortie des athlètes là-bas. Ce mec est une machine. Donc il était là, effectivement, avec son drapeau.
Il sera le supporter des jeux quand même.
Ouais. Je crois que la fois qui m'a le plus impressionné, c'était quand même sur le 50 mètres marche, où il avait mis carrément le drapeau de Sarreguemines sur la ligne d'arrivée pratiquement. On avait vu Johan Diniz s'arrêter presque là. Je sais pas comment il a pu accéder à tout ce
genre. Il aurait pu se blottir dans le drapeau de Sarreguemines.
Oui, ça aurait été beau que Tony Yoka, oui, tout à l'heure, le drapeau de Sarreguemines pour terminer.
Qu'est-ce qu'on a sous les yeux là, le tableau suivant, messieurs dames,
avec la chanteuse Birbiane Bilro Lache actuellement, qui rend hommage à la période coloniale du Brésil. Voilà.
Donc en fait, c'est un peu comme la cérémonie d'ouverture, on retrace différentes époques de l'histoire du pays, mais de façon un peu différente, un peu plus courte, un peu plus condensée. Tout à l'heure c'était donc les tribus originelles, et là donc c'est l'époque coloniale. Voilà. Tout ça devrait normalement nous mener à Neymar et Pelé.
En toute logique, Neymar également sera. D'accord. Ah oui, tu parles de l'histoire.
Vous avez vu Neymar
avec les volets hier.
Au volet, ça prenait
hystérique.
Ah non, complètement dingo.
À la tribune.
Ah ouais.
Hystérique au premier rang.
Il avait une espèce de grande main en plastique. Tu sais, quoi.
Ah oui.
Il est rangé.
Ah non, en plastique.
En plastique, et il tapait sur la tête des volets.
Pendant le match.
Non, après, à la fin.
C'était
absolument n'importe quoi. Hashtag RMC Live, je vous le rappelle, c'est la nuit olympique. Il est 2h15 du matin. Isabelle Severino et Olivier Giraud vont revenir tout à l'heure avec quelques invités au micro pour revenir sur les grands moments de ces Jeux Olympiques. Évidemment.
Tiens, Gilbert, j'ai un le saviez-vous
aux Jeux Olympiques. À quoi ?
Un le saviez-vous aux Jeux Olympiques. Le saviez-vous ? 119 pays ne remportent aucune médaille dans ces Jeux Olympiques. C'est plus de la moitié des nations représentées dans les Jeux Olympiques.
119 pays n'ont pas une médaille.
119 pays.
Ah, maintenant il faut les trouver. Alors
là. Vas-y, cite-moi un pays qui n'a pas de médaille.
Luxembourg.
Ils n'ont pas eu ?
Bah, je crois pas.
T'es sûr ?
Kyrgyzstan n'a pas eu de.
Si, allez, si, Kyrgyz, si.
T'es sûr ?
Monaco.
Non, Tadjikistan n'a pas eu de médaille.
Bah, si, une médaille d'or.
Nazarov.
Une médaille d'or à l'athlée.
Nazarov.
Tadjikistan.
Mais Kyrgyzstan n'en a pas eu.
En fait, tu regardes le
Nepal. Ouais, Népal, ouais, exactement. Après, t'as plein d'îles. Hein.
Non, mais le Kyrgyzstan, attends, je cherche, du coup, tu me mets le doute. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que.
Ce qui est dingue, c'est que la grande majorité des pays représentés n'ont pas eu de médaille, en fait. Hein. C'est trusté par 30% des pays de ces Jeux Olympiques. Évidemment, les Américains en tête avec 121 médailles. Alors là, il y a toute la liste. Alors, je l'ai. Les Bermudes. Le Bénin, la Birmanie, le Bhoutan, la Bolivie.
Non mais là t'as les yeux qui n'ont pas eu de médaille.
Tous ceux qui n'ont pas eu de médaille.
Non, mais tu vas nous dire 110 pays là.
Non, bah, j'en ai quelques-uns. Le Botswana qui a failli hein,
ah, ouais.
Hier sur 4x400. Ils ont failli la première médaille.
Alors vous savez que les Jeux Olympiques c'est des médailles mais c'est aussi des boulettes. On me dit dans le casque qu'il faut faire écouter un truc à Georges Quirino qui apparemment a inventé une nouvelle épreuve. On va écouter.
Je crois que la fois qui m'a le plus impressionné c'était quand même sur le 50 mètres marche.
Ah oui, c'est vrai, marche. Le 50 mètres marche.
Et d'ailleurs, c'est frais, c'est ça.
C'était là il y a 5 minutes.
Ah ouais. Mais tu sais que du coup, Johan Diniz est champion olympique, puisqu'il était en tête au bout de 50 mètres.
Diniz, c'est la loose quand même.
Il rôtit,
il explose. Diniz explose sur 50 mètres, c'est terrible.
Il a des problèmes gastriques sur 50 mètres marche.
C'est chaud,
effectivement.
Moi, j'en ai déjà eu sur 2 mètres, moi, des problèmes gastriques.
Avec qui c'est que tu nous as ramené, Isabelle ?
Ah ben, avec moi, j'ai de la chance ici au Club France. On est avec Olivier Bossé, qui est médaillé de bronze sur le 470 en voile à Pékin avec Nicolas Chardonnier. Salut Olivier, ça va ?
Ouais, nickel, ça me fait plaisir d'être de nouveau avec vous.
Alors le petit bilan de la voile, parce que quand même la voile, gros pourvoyeur de médailles, toujours présent, même si vous êtes un petit peu dans votre monde et qu'on vous embête pas trop, comment ça se passe ?
Bah, le bilan est très positif, hein. Tout d'abord avec la belle médaille d'or de Charline en RSX. Qui a pour nous ouvert les médailles de la voile française. Et 8 ans après Fastinmeré en 2004, c'est vraiment super de voir Charline avec la médaille d'or, d'autant plus que c'est une très belle athlète, une vraie sportive, très sympathique. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Après, bah, Pierre Lecoq, toujours en RSX, donc ça montre la force de la voile et de la planche à voile française. Et la troisième, c'est en 4-7 féminin, donc ça me tient à cœur parce que moi j'étais en 4-7.
Donc voilà, elles ont été l'arrachée, hein, celle-là. Hein,
ouais,
parce qu'avec les Américaines, là, qui ont craqué sur la fin, c'est
vraiment super. Voilà, en plus, la retransmission de la voile aux Jeux Olympiques a beaucoup progressé. Donc maintenant, on arrive à suivre.
C'est plus compréhensible. Exactement. Pour les non-initiés.
Déjà que c'est pas simple à comprendre, là, voilà. Et on se donne les moyens de comprendre notre sport, donc ça nous fait plaisir. Et voilà, cette médaille française en 4-7, c'est la première médaille en 4-7 féminin. Donc c'est
grand bravo.
Donc voilà, je pense que la Fédération française de voile peut être fière de ce bilan, qui aurait pu être toujours meilleur. Hein. Il y avait vraiment
une de Billy Besson aussi. Qui a été blessé
un peu avant les Jeux et qui malheureusement n'a pas pu être physiquement à son maximum pour cette épreuve.
Il s'est fait opérer, là tout va bien.
Voilà, tout va bien.
Olivier, vous qui avez été médaillé à Pékin, qu'est-ce qu'on fait après la voile olympique? Alors on sait qu'il y a quelques grands marins, par exemple les frères Fageot, qui ont participé aux épreuves de voile olympique, mais on fait pas évidemment du 470 ou d'autres bateaux toute sa vie. Qu'est-ce qu'on fait après?
Ça dépend un peu du bateau qu'on veut faire. En voile olympique, c'est sûr que c'est assez sportif, donc la carrière s'arrête entre 30 et 40 ans, parce que physiquement ça devient dur. Après, maintenant la voile se professionnalise et on arrive à naviguer sur des bateaux un peu plus grands. En général, après une médaille olympique, on peut passer assez facilement à la Coupe de l'Amérique. Hein.
Ouais, j'allais en parler. Ça veut dire que c'est un tremplin quand même, parce que faut bien reconnaître que c'est les marins qui pratiquent la voile olympique, ils vivent dans l'anonymat le plus complet pendant la majorité de leur carrière, quoi.
Ah ben c'est sûr que la voile olympique c'est médiatique une fois tous les 4 ans pendant les Jeux, et si on a la chance d'avoir été médaillé, c'est un tremplin, voilà, pour passer à autre chose, la Coupe de l'Amérique ou en France la course au large. Voilà, donc vous avez l'exemple de François Gabart qui a fait une préparation olympique en tornado. Bon, il a pas fait les Jeux, mais il a su rebondir et il est passé en solitaire, et voilà, il a fini par gagner le Vendée Globe, et là il est responsable d'une grande équipe, et donc il en fait son métier et il se fait plaisir.
Et c'est un sport aussi à maturité tardive, donc c'est extrêmement difficile. Comment est-ce que vous faites pour associer quand même les deux, parce que bah, du coup, comme c'est un peu plus jeune, moi je viens de la gym, donc effectivement nous c'est les études un peu qui bloquent le processus de s'entraîner, mais vous, comment est-ce que vous faites pour vivre de la voile, parce que vous déclenchez un petit peu beaucoup plus tard?
Ah bah alors au début on vit c'est nos parents et les petits clubs français qui nous aident. Après c'est la fédération qui nous prend en charge ce qu'elle peut, et si on est médaillé olympique, bah, on se bat comme beaucoup de sportifs en France pour essayer de trouver des financements pour monter des projets. Après voilà, après une médaille au jeu, en général ça se passe mieux. Alors ça dépend, si on veut repartir sur l'olympisme, il faut quand même pas mal d'argent, et maintenant les projets internationaux, Coupe de l'Amérique, voilà, il y a des gens qui...
C'est sponsor, donc effectivement, voilà. Les Jeux Olympiques, comme on disait, c'est un tremplin, parce que ça nous fait connaître et que des gens sont plus intéressés à pouvoir nous aider.
Exactement. Mais en France, il y a les voileux qui vivent bien de leur métier, il n'y en a pas beaucoup. Donc,
Olivier, est-ce que le kitesurf aurait sa place aux Jeux Olympiques?
Moi je pense que tout ce qui peut augmenter l'audience, et ce qui peut faire que les spectateurs regardent notre sport, ça peut être bien. Alors moi je suis pas un fanat du kitesurf, hein, j'en fais. Je pense que au niveau régate pure c'est peut-être un peu moins intéressant, mais si le public comprend mieux notre sport, et ça nous permet de rester aux Jeux Olympiques, hein, parce que on est parfois sur la sellette. Ouais. Je pense que c'est bien.
Bon, et là, l'avantage à Rio, c'est que vous aviez une ville à bord de mer avec la voile qui était présente avec les autres, alors qu'à Londres, par exemple, la voile était loin, on n'en a pas parlé, en plus la France n'a pas réussi, donc la voile était passée complètement au travers des radars à Londres. Oui. Donc,
même à Pékin, on était à Qingdao, c'était à 600 km.
Vous avez pris les avions pour venir fêter.
On a pris les avions pour la cérémonie d'ouverture, on était redescendu à Qingdao, on a eu notre médaille, on nous a mis dessus dans un avion, et comme on voulait supporter les autres Français en voile, on a repris l'avion le lendemain pour redescendre à Qingdao pour aller les encourager. Donc c'est sûr que des Jeux à Rio où la mer est omniprésente, ça permet aux sportifs marins de vivre au Club France et de vivre la magie des Jeux avec l'ensemble de la délégation française.
Bon, à Tokyo on est en bord de mer, mais en 2024, comme ce sera à Paris, Isabelle, là ce sera à Marseille. Puisque ça a déjà été
c'est une heure Marseille,
facile.
C'est déjà une heure pour aller à l'aéroport. Après,
ça y est. Et puis s'il y a les grèves, et puis s'il y a ceci. Ah non, tu peux pas commencer à dire ça.
On en parle pas
de toute façon. De toute façon, à Paris, c'était pas possible. Hein,
Paris sur la scène, c'était compliqué.
Merci en tout cas, Olivier Bossé, d'être passé nous voir. Merci. C'était sympa.
Allez, écoutez, bonne soirée. Merci à vous.
Et à très bientôt. Merci Isabelle. À tout à l'heure avec d'autres invités.
Je vais rechercher des invités pour vous.
Ouais, super. Merci Isabelle. À tout à l'heure. Elle est bien comme fixeuse.
Isabelle. Ouais. Ah oui.
Alors, on va avoir une cérémonie quand même là de médailles dans cette cérémonie de clôture, messieurs.
Oui, la cérémonie du marathon dans quelques instants, du marathon masculin qui a eu lieu ce matin avec la victoire du Kenyan Eliud Kipchoge en 2h08 et 44 secondes devant l'Éthiopien Félix Adilesa et l'Américain Galen Rupp. Donc c'est la tradition habituellement, les marathoniens sont célébrés sur la cérémonie de clôture, alors que avant cela on diffuse ici dans le stade Maracana une vidéo avec les meilleur moment de ces Jeux Olympiques. On a vu il y a quelques instants Audrey Tchemeo, la française. On voit des Français là du BMX, mais ça n'a pas marché pour eux malheureusement. Les tricolores.
Ah, l'ovation Kevin Mayer, tiens, qui vient de passer sur les écrans géants. Ici, donc c'est un petit film qui retrace quelques moments de joie, de médailles de ces Jeux Olympiques. Ou pas de médailles d'ailleurs, parce que je vois les Américains au rugby à 16, ils n'ont pas eu de médaille. Donc voilà. Bon, c'est les belles images des jeux quoi. Pendant quelques secondes. Et puis ensuite, il y aura donc le podium du marathon. On est en train de. Ah, il y a Rafaela Silva.
Ouais.
Rafaela Silva qui est là. Alors, je sais qu'Olivier Giraud est avec Cédric Sorrendo. Est-ce que Cédric est avec nous, avec Olivier là?
Oui, bien sûr.
Vous êtes là? Salut Cédric.
Salut.
Olivier, il est là ou il est en partie?
Il est là, il est à côté de toi.
Ah. Alors on t'entendait pas, c'est pour ça.
Non, il est là, Cédric.
Bon, Cédric, est-ce que cette médaille d'argent vous satisfait?
Me satisfaire, non, mais bon, je pense qu'après tant de travail, et surtout, faut pas oublier la Pologne, tout ce qu'on a vécu, donc des durs moments, je dirais quand même, c'est une médaille à savourer. Il ne faut pas être triste, parce que bon, dans la vie d'un sportif de haut niveau, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc en étant sportif de haut niveau, on veut toujours la plus belle des médailles, mais il faut savoir qu'il y a des équipes qui se battent pour des médailles qu'ils n'auront jamais.
Exactement, je pense que Olivier Cédric est sage quand il dit ça.
Cédric est plus que sage et le parcours de vie de Cédric lui fait avoir aussi cette humilité. Cédric, moi la question que je voulais te poser, j'ai vu quelque chose, j'étais triste moi de mon poste de commentateur. J'étais pas déçu, j'étais triste parce que j'aurais voulu que vous alliez chercher cette médaille pour vous et pour parce que vous êtes un groupe que j'aime, voilà tout simplement. Mais ce qui m'a plu moi, c'est et que peut-être personne ne l'a noté, c'est la fin du match. À la fin du match, il y a eu un fait où plutôt que vous désunir, j'ai vu l'équipe de France se réunir et j'ai vu un truc et c'est assez hallucinant. Je t'ai vu parler.
Oui,
je t'ai vu parler à tes coéquipiers. Tu leur as dit quoi?
Je leur ai dit quelque chose qui reste entre nous, mais d'accord. Bon, c'est non, mais c'est pour dire en gros que on grandit avec des phrases. Donc à certains moments, on grandit avec des phrases toutes faites. Des choses qu'on apprend à vivre avec l'expérience. Donc moi j'ai toujours compris, on gagne comme des hommes mais on perd comme des champions. Mais il faut savoir qu'une équipe se construit plus sur la défaite que sur la victoire. Donc on dit qu'on a plus soif de victoire, c'est pas vrai. Donc on a démontré certaines valeurs, on a montré qu'on s'est toujours battu, de la combativité, de la solidarité, mais de l'âme. Je pense que sur les grandes compétitions, même quand on perd, il faut savoir sortir la tête haute, qu'on sait qu'on a fait ce qu'on pouvait. Aujourd'hui, on a rencontré une meilleure équipe, c'est comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui travaillent aussi, donc ils évoluent. Donc félicitations à cette équipe de Danemark, mais je suis d'autant plus fier aujourd'hui de dire que je suis content de faire partie de l'équipe de France. Tout comme à l'époque, toi tu m'as protégé quand j'étais en équipe de France, comme les Bargeuses ont montré la voie. J'espère que les limites des valeurs ne s'arrêtent pas seulement au sport, mais il y a des valeurs d'homme, et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui.
Ouais, voilà Cédric Sorendo. Tu as joué avec Olivier, Cédric, hein?
Ah, bien sûr, j'ai joué à Paris, c'était mon capitaine. C'est lui qui m'a montré la voie, il m'a protégé en équipe de France. Disons, il m'a inculqué les valeurs du sportif de haut niveau, parce qu'en étant jeune, sorti des Antilles, arrivé à Paris, Paris c'est forcément dangereux à certains moments pour un jeune. Donc j'ai su être encadré comme il se fallait par Olivier Giraud, Bruno Martini, Boginovic. Il y a des joueurs qui ont été présents. Donc comme j'ai envie de dire, moi j'ai eu une carrière atypique, mais j'ai rencontré des grands hommes sur ma route.
Olivier, ouais, tu voulais reposer une question ou bien tu es ému par ces hommages?
Non, je voulais Cédric, c'est comme je disais avant, c'était mon petit, et aujourd'hui Cédric il est grand, à la fois en tant que sportif, mais en tant qu'homme, c'est une vraie fierté vraiment de le voir évoluer depuis toutes ces années. Et la question c'était que là finalement cette défaite, elle va apporter énormément de choses, et je veux avoir ton sentiment là-dessus. Il y a six mois pour préparer ce nouveau mondial qui va avoir lieu en France. Est-ce que vous en avez déjà échangé, ou vous allez attendre un petit peu entre les gars pour vous dire la nouvelle règle, on n'y était pas encore bien préparé, on s'y est bien adapté, mais quand on va être dans six mois en France, on y sera préparé?
Mais je suppose que toi tu connais déjà la réponse. Donc il y a six mois en Pologne, on finit cinquième. Donc on a pu montrer à certains moments des limites. Bon, pas des limites, pas de la fatigue. Il y a eu ces limites du genre, à un moment, on doutait de nous. Donc quelqu'un qui doute forcément, on peut le travailler au corps à corps sur un terrain. Aujourd'hui, on arrive ici, donc on arrive à se remobiliser, on fait médaille d'argent. Par contre, l'histoire a été écrite en 2001. 16 ans après, on sera à Bercy. On sait tous ce que c'est. Et moi, j'ai vu, à cette époque où toi tu jouais, et Nico, il était jeune joueur encore, comment il se faisait tabasser à l'entraînement. Donc, ce sont des anecdotes. Et je sais que cette équipe, tout comme toi tu l'as vécu, tu sais que cette équipe, même si on avait gagné la médaille d'or aujourd'hui, même si on faisait la fête ce soir, on serait déjà focalisé sur ce qui nous attend, parce que le peuple français mérite cela. Et quand on arrive aux Jeux Olympiques, on ne représente pas une section, on représente un pays. Aujourd'hui, on a beau souffrir dans tout ce qu'on a. Aujourd'hui, en dehors du sport, il y a ce qu'on peut apporter aux gens. Et aujourd'hui, je pense que cette médaille d'argent, pour nous, c'est quelque chose, mais c'est encore d'autant plus gratifiant pour toutes les personnes qui vont se mobiliser autour de cet événement.
Merci Cédric, merci pour ton témoignage.
J'ai l'impression que c'est le retour de Joël Abattu en équipe de France.
On part pas, s'il te plaît.
Non, mais bon.
Joël, il avait toujours un discours comme ça là.
Le révérend.
Le révérend, il est arrivé, il avait son discours là, de fédérateur. Il dit oui.
Alléluia.
Merci Cédric en tout cas.
Tu sais qu'on a beaucoup de monde ici, ça commence à se remplir un petit peu dans notre studio. Est-ce que tu étais à Sydney, toi?
Ah ouais.
Alors qui était le représentant à Sydney du pentathlon moderne? Tu t'en souviens?
Sébastien Delaigne.
Eh ben il est là, il est avec nous et il peut nous parler de cette équipe du pentathlon moderne.
Ah, déjà tu peux dire que j'étais impressionné, tu t'attendais pas à ce que je te le sorte, Sébastien Delaigne.
Non, t'es fort. Voilà. Il t'a reconnu tout de suite, hein. Il faut que tu parles dans le micro, Seb.
Gilda, il est super fort.
T'as un tel aussi, quand même.
Athènes aussi.
Oui, non, c'est pas ça.
Sébastien, ouais, moi j'étais à Athènes aussi, ouais.
Oui, et toi aussi on a fait un plateau avec Bruno Gubzeit.
Ah, Bruno, avec ses Marcel, magnifique, Bruno.
Exactement, avec ses Marcel, ouais. Et ses gros bras.
Bruno Gubzeit, qui était le consultant des RMC Natation, qui était ancien nageur, et qui se baladait dans Athènes. Il ne se baladait qu'en Marcel. Voilà.
Il continue à se balader qu'en Marcel.
Marcel Mann. Alors, Olivier, je vais te laisser. On a, nous, l'hymne kényan ici au stade olympique, là, parce qu'il y a le. médaille d'or du marathon qui reçoit Kipchoge, ouais, qui avait fait bronze sur 5000 il y a 8 ans, argent sur 5000 il y a 4 ans, qui fait or sur marathon cette année. Donc on va écouter Lynn Kenyon, respecter le protocole, et ensuite on parlera un peu patathlon moderne avec Sébastien. On revient donc dans deux petites minutes. Bon, ça a plutôt de la gueule de recevoir sa médaille devant 100 000 personnes.
Et alors, je savais pas, mais est-ce que tu savais que lors de la première édition des Jeux Olympiques en 1896, toutes les médailles étaient données lors de la cérémonie de clôture. Donc il y avait tous les podiums comme ça.
Mais si aujourd'hui on avait ça, ça devait être un peu long. Hein. Ça devait être
déjà
un peu
que c'est court.
C'est mieux de la recevoir ici qu'aux Jeux Olympiques, ta médaille. Hein. Parce qu'il n'y avait absolument personne aux Jeux Olympiques en fin de session.
Au Sambo de Romo.
Là, au moins, t'as 50 000, 70 000 personnes.
Alors, au Club France, donc Olivier Giraud est là, Isabelle Severino est là, et donc Sébastien Delaigne nous rejoint, double champion du monde de patathlon moderne, entre autres. Et le patathlon moderne qui a remporté une médaille aux Jeux cette année avec Elodie Clouvel.
Historique la médaille quand même, je peux le dire.
Historique. On attend ça depuis très longtemps. Il a fallu attendre déjà 2000 pour que les filles rentrent aux Jeux Olympiques. Et 16 ans plus tard, une médaille pour l'équipe de France. Désolé pour la voix, justement.
Non, on a mis qui se lâche, tu
rassures.
On voit ceux qui ont encouragé et les autres, en fait.
j'ai surtout perdu ma voix aussi avec les garçons parce qu'il y a deux gamins. Je m'en suis occupé quand j'étais en
Valentin entraîneur. Prêt et Valentin Delo.
Voilà. Entraîneur en pôle. En pôle en Formule. Et effectivement, c'était deux gros espoirs de médailles puisque les deux sont classés dans les trois premiers mondiaux. Avec un titre de champion du monde de Valentin Bello cette année. Malheureusement, il passe un peu à côté sur la dernière épreuve, mais Valentin Prat qui finit quatrième et qui égalise, je dirais, la meilleure performance française.
Et à si peu, là, il y a le Mexicain qui me remet, j'ai envie de dire mais vas-y, mais il est déjà à fond, quoi.
J'ai envie de le dire, effectivement, mais comme j'ai vécu la même chose, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? L'histoire se répète, c'est difficile. L'histoire se répète.
Quatrième à Sydney, ouais. Sébastien.
Tout à fait.
Oui, Georges, toi t'étais, hein.
Oui, à Deodoro hier pour la quatrième place de Valentin Prat qui nous a fait une remontée de l'enfer. À la sortie du tir, il devait être aux alentours de la huitième place. Il s'est mis à courir, on a cru qu'il allait aller chercher la troisième place. Alors, pour être tout à fait honnête, on n'est pas forcément des experts du pentathlon moderne. Juste après son concours, il nous expliquait en zone mixte, et d'ailleurs vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ça, qu'il a vu notamment un mauvais coup de chance, notamment sur l'épreuve d'équitation, parce qu'il a vu un cheval qui n'était pas vraiment adapté à ses capacités, à sa morphologie. Comment ça se passe en fait sur l'épreuve d'équitation? On n'arrive pas avec sa monture en fait, hein, en
non,
moderne.
Non.
Voilà. Mais comment on choisit ces tirages au sort?
Le pays organisateur, oui, effectivement, un lot de chevaux qui prépare à partir du moment où ils ont donc l'organisation des Jeux Olympiques, hein, ils ont un lot de chevaux qui prépare toutes les années avant les Jeux Olympiques. Et ces chevaux sont tirés au sort le jour de la compétition, enfin le jour après l'épreuve d'escrime, le duel que vous avez vu sur l'estrade. Et les chevaux sont montés 20 minutes avant le tour. Donc c'est une adaptation assez rapide. Et il faut faire en sorte que la combinaison entre le cavalier et le cheval se fasse très rapidement. Et effectivement, son cheval, Valentin Prat, est un pentathlète assez costaud, assez grand. Son cheval n'avait pas... effectivement, s'il devait acheter un cheval, il n'aurait pas acheté celui-là. Ouais.
Oui, il disait j'avais des jambes trop grandes pour mon cheval.
Il a filé un poney, quoi, c'est ça que je veux dire.
C'est pas une chose là.
Bon, vous avez quand même avec Elodie Clouvel une ambassadrice parfaite là. Parce que,
parfaite, magnifique. Hein.
Ouais.
Performante en plus. On a beaucoup parlé de pentathlon à travers elle avant ses performances. Alors j'espère qu'effectivement, avec une médaille d'argent, le pentathlon va sortir enfin de l'ombre. Parce que le pentathlon existe depuis 1912, il faut le savoir. Hein.
Eh oui, invention de Pierre de Coubertin, faut le rappeler.
Tout à fait. Tout à fait.
Bah, c'est d'ailleurs, l'histoire c'est... même des jeux. Pardon. Vous bossez quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque à chaque tous les 4 ans, ça y est, dès qu'on veut sortir un sport des jeux, le nom du pentathlon moderne arrive.
Alors je vais te dire un truc, ça sortira jamais parce que je crois que c'est le sport favori du prince Albert de Monaco. Tant qu'Albert il est là, je pense que ça va.
Il était président de la Fédé internationale même,
le prince Albert. Tout à fait.
C'est ça. Ouais, mais bon,
il suit énormément le pentathlon et lui-même a dit une fois dans les médias que s'il avait eu à pratiquer un sport, ce serait le pentathlon. Et puis pour vous dire et pour contrer ce que vous dites, c'est que depuis 84, on dit que le pentathlon est menacé. Malheureusement, tous les sports sont menacés. Enfin, beaucoup de sports, vieux sports sont menacés. Mais l'évolution de ce sport montre que il n'est pas du tout menacé, puisque depuis 1996, où il n'y avait que les garçons, nous étions 32 finalistes, on est passé à 24 finalistes garçons, 24 finalistes filles, ça fait 48 participants,
ça
évolue sans arrêt. On est passé à 32 plus 32, et maintenant on est à 36 plus 36. Et il parle de rajouter même l'épreuve mixte, donc ça ferait donc 3 médailles pour le pentathlon. Je ne sais pas où on est menacé.
Nous aussi, on attend bientôt l'épreuve mixte de handball pour pouvoir aller chercher des médailles en plus. On attend que ça.
Là, on serait bien, là, effectivement. Cette année, on aurait été pas mal.
Sébastien, en tout cas, merci d'être passé nous voir. Et donc, le pentathlon moderne qui a brillé lors de ces jeux. On a juste une difficulté avec le pentathlon moderne, c'est que les gamins qui veulent faire du pentathlon moderne, il n'y a pas de club de pentathlon moderne. Comment ça marche?
Mais bien sûr qu'il y a des clubs. Pourquoi vous me dites qu'il n'y a pas de club? Il n'y a pas de club de pentathlon.
Il ne faut pas s'inscrire à un club plus un club plus un club pour les différentes
sports. Pas du tout. Il y a un club dans ma ville qui s'appelle les Îles Cordières. Il y a un club à Perpignan qui est à 80 bornes. Après, effectivement, il faut aller plutôt vers Bordeaux, sur la Côte d'Azur, Aix-en-Provence. Sur Paris, il y a plusieurs clubs. Et puis, dans le Nord, on trouve aussi des clubs.
Combien de licenciés au pentathlon moderne?
Pas énormément, effectivement. Ouais. Je ne vous dirai pas les chiffres parce que je vais les
trucs. C'est un petit peu comme le biathlon, finalement. Il y a très peu de licenciés, mais aussi, quand même, des athlètes très performants.
Exactement. Mais il faut dire qu'on entre dans le pentathlon grâce à aussi au laser run sur le plateau. J'arrive pas à contrôler, il faut que je ferme les yeux pour pouvoir parler.
Parce qu'avec Tchouf, on est en train de faire des bruits.
Mais voilà, je vous embête.
Sorendo, on fait des bruits.
Pour finir, le développement actuellement du pentathlon moderne passe par le laser run, ce que vous avez vu en fait, l'évolution du pentathlon moderne.
Ouais, la dernière épreuve, quoi.
Voilà, la dernière épreuve. Et énormément de gamins pratiquent ça. Ça plaît beaucoup. On peut le faire dès l'âge de 6-8 ans. Donc, c'est une façon de rentrer dans cette discipline.
Merci Sébastien d'être passé, c'est sympa.
Avec plaisir.
Sans et à très bientôt avec ou sans Bruno Guzet et chez Marcel.
Avec
bientôt. Il faudra qu'ils reviennent MC4 quand même. Salut Sébastien, à bientôt. Olivier, Isabelle.
Parti.
Ouais. Bah, à tout à l'heure,
revenez
quand
moi
vous voulez.
Moi je suis invité. On fait une battle avec Olivier.
C'est autour d'Isabelle.
C'est à mon tour.
Alors t'as ramené qui toi Isabelle?
Moi j'ai ramené quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Yasmina Aziez. Qui fait du taekwondo et qui a terminé quatrième. Et le nombre de quatrièmes places que l'on a eu sur ces Jeux Olympiques, faut quand même pas les oublier parce qu'on est à. Elle est à un point du podium, Yasmina. Et elle me disait à quel point, bon, pour le moment, elle n'était pas encore. Voilà, elle n'avait pas encore digéré cette quatrième place à un point du podium, Yasmina.
Bah bien sûr, c'est. Merci à vous de m'avoir invité déjà. Je suis très contente d'être ici. C'est sûr qu'une quatrième place c'est hyper difficile. C'est la place que je voulais le moins. Bien sûr, je suis venue pour chercher.
Tu peux dire c'est la place du camp là. Ça
c'est ouais, voilà. Ouais. Non, mais j'osais pas le dire, mais bon, c'est la place du bouffon pour moi. mais voilà, j'ai vraiment du mal à la digérer parce que j'ai été à un point de la finale olympique et j'aurais rencontré la Serbe qui est une super athlète et avec qui j'ai combattu plusieurs fois. Donc j'aurais vraiment aimé aller chercher cette médaille d'or. Mais aujourd'hui, mon sort a été différent. Donc j'ai été forte pour les collègues, mais aujourd'hui là ça retombe un peu et c'est encore plus dur que mercredi.
ça a été dur, notamment parce qu'il y a eu des choses, si je me rappelle bien, du combat, notamment la juge qui, à un moment donné, t'enlève des points, remet des points.
Par rapport à, oui, à un coup pied au visage qui n'a pas été comptabilisé. Après, nous, on a des chaussettes électroniques, ça s'appelle. Donc, mon pied a, pour eux, a mal été positionné sur le casque, ce qui est tout à fait légitime, hein, parce que les règles sont les règles. Hein, mais bon, aujourd'hui, on va pas dire que c'est l'arbitrage, on va dire que peut-être que j'ai manqué quelque chose sur cette demi-finale où j'aurais dû aller chercher la finale. Mais bon, ce n'est que partie remise.
Ça veut dire que vous repartez avec l'ambition de championne olympique à Londres?
À Tokyo, bien sûr, je repars avec cette ambition. J'ai toujours été une battante dans la vie et là, je sais que j'aurais pu être championne olympique, je ne l'ai pas fait, mais à Tokyo, c'est ce que je vise.
Bon, Yasmina, le taekwondo, malheureusement, aurait pu faire mieux quand même. Hein. Vous êtes quatrième, il y a une médaille. On a suivi hier les combats pour le bronze des deux autres derniers combattants, dont Gladys Epang, qu'on connaît bien à RMC, puisqu'elle a été stagiaire chez nous, Gladys, on s'entend très bien avec elle. C'est vrai que vous auriez pu tous monter sur le podium, au fond, hein, lors de ces Jeux.
Exactement. On était programmés et préparés pour tous monter sur le podium, pardon. C'est sûr que c'est difficile encore pour le taekwondo français. On a qu'une médaille grâce à Abby.
Très belle médaille.
Une très très belle médaille, bien sûr. Elle relève grâce à elle. Le taekwondo.
Elle avait des soucis en plus.
Elle avait des soucis de genoux. Qu'elle va régler en rentrant aussi. Donc grâce à elle, le taekwondo français a une médaille d'argent. Et c'est sûr que entre Mbar, Gladys et moi, on passe à côté du podium, de peu bien sûr. Mais
vous avez quatrième et
septième pour Mbar.
Non, mais les deux quatrièmes.
Voilà, pour Gladys et moi, on a fait la même chose. Hein, on perd un point d'aller se qualifier, enfin de faire le podium. Donc c'est difficile, mais je pense qu'on a une dynamique qui est lancée et qu'on va préparer Tokyo 2020 d'une autre manière, parce qu'on a un nouveau staff qui nous encourage et qui nous met vraiment en avant et qui nous aide beaucoup.
Les sports de combat, vous êtes quand même assez proches, j'imagine, avec les résultats de la boxe et toute cette nouvelle génération qui va aussi certainement aller chercher des choses à Tokyo. Vous allez échanger un petit peu, essayer d'aller piocher les choses chez eux, peut-être de l'énergie, peut-être rentrer aussi dans leur groupe, parce que je sais que tous les sports de combat, vous êtes quand même assez soudés à l'INSEP notamment.
C'est vrai que bizarrement, ce qui nous rapproche, c'est peut-être le fait que dans le sport, c'est la bagarre, quoi. Ce qui nous fait gagner, c'est aller se bastonner sur l'air. Donc c'est vrai qu'on est assez proches. Après, on n'avait pas commun comme les régimes qu'on fait.
Il y a un truc de dingue, je sais pas si t'as vu, Julia, parce qu'on a tous des petits manuels là, genre c'est la Bible, on a le droit à avoir.
Ah oui, le fameux guide.
Voilà, le fameux guide avec les noms, les photos, le palmarès et aussi un petit historique sur chaque athlète, parce que on peut pas tous savoir sur tout, c'est quand même un petit peu compliqué. Et en fait, la petite particularité de Yasmina, c'est qu'elle combat en moins de 49 kilos. Et quand t'as ta fiche juste à côté, il y a marqué taille 1m72, poids 52 kilos.
Il a dit, il y a une arnaque
dans le truc ou quoi? Non, mais c'est parce que les régimes sont
voilà, ça fait partie de notre sport. On se met dans une catégorie où on va avoir plus d'avantages que dans une autre. Parce que moi, l'autre catégorie, c'était moins de 57 kilos. Pour 52 kilos, vaut mieux perdre 3 kilos, qui est un peu plus maigre que les autres, sachant qu'elles en perdent 3 aussi, donc elles peuvent monter à 60. Donc ça fait partie de notre sport et moi personnellement, c'est ce qui me donne aussi un peu plus de rage sur l'air de combat. C'est les sacrifices que je fais pour ce sport et le régime en fait partie.
Parce que vous la voyez pas, mais elle est fit, hein. Attention, 1m72, là, moins de 49 kilos, je te jure, la nana, il n'y a pas un pet de graisse, de rien du tout, hein. Tout est à sa place. Hein.
Et pour conclure, Yasmina, vous êtes vraiment une fille de l'olympisme, puisque c'est en regardant Pascal Gentil à Sydney, c'est ça que vous avez dit, moi je veux être là-bas aussi, je veux aller aux Jeux.
Exactement. Pascal, ça a été la figure du taekwondo. Et puis quand j'ai commencé, j'avais 5 ans. Hein. À 5 ans, on ne dit pas qu'on va faire les Jeux, mais à Sydney, c'est sûr que quand j'ai vu un Français aux Jeux, ça m'a donné tout de suite envie d'un jour y être. J'ai loupé Londres de peu et je suis très contente d'être ici aujourd'hui à Rio, même si le résultat n'a pas été là. C'est une aventure exceptionnelle avec des personnes exceptionnelles et le sport c'est ça, c'est vivre des moments, des émotions, en faire partager et puis représenter la France, c'est quelque chose qui me fait kiffer, quoi, que j'aime. Donc, j'aurais aimé faire mieux, mais ça m'a donné envie vraiment de continuer de m'entraîner pour la médaille d'or à Tokyo.
Merci beaucoup Yasmina d'être venue nous voir, en tout cas.
Merci à vous, c'était un plaisir. Merci
et à très bientôt. Isabelle, à plus tard.
Je fais une battle avec Olivier Giraud là ce soir sur les invités. Par contre, moi j'aime bien vous amener aussi les quatrièmes parce que les médaillés c'est bien. Mais les quatrièmes, on n'en parle pas beaucoup, mais on en a vraiment énormément, et ce qui fait que le sport français quand même se porte bien. C'est-à-dire que on oublie aussi un peu ces quatrièmes places où on est à deux doigts d'eux, et c'est ce qui donne envie en plus pour la plupart du temps de retourner pour 4 ans. Et on aura des médaillés de toute façon, mais on va aussi avoir des gens avec des histoires incroyables et tous ces athlètes qui sont ici à Rio. De toute façon, les 395 athlètes de la délégation française sont formidables, ils sont adorables, on les a eu au micro, ils sont super.
Ça qui est bien avec Isabelle, c'est que tout le monde est magnifique.
Les 315 aujourd'hui,
c'est incroyable.
Je connais
bien pour ça,
je connais 0%.
Est-ce que t'as vu? Non, non, mais Gilbert, si tu veux, on peut avoir un débat là-dessus.
Bon, mais est-ce qu'il y a un peu quand même.
Non, mais est-ce qu'on peut avoir un débat sur il y a 10 ans, quand t'avais des athlètes? C'était des réponses un peu oui, non, c'était pas facile. Et je trouve qu'aujourd'hui, les athlètes, ils sont plein d'émotions, ils sont capables de te raconter leurs histoires. Alors, voilà, ils vont plus partager leur sport, surtout les sports qu'on connaît moins.
Non, mais t'as pas tort.
Et moi, je trouve ça très agréable, tout simplement.
T'as pas tort, mais ils bénéficient aussi, il faut dire, d'une caisse de résonance qui n'existait peut-être pas il y a 20 ans.
Complètement, grâce à RMC notamment.
entre autres.
Et merci François Pesanti, voilà. Envoyer le podcast.
Il nous écoute, il écoute 24-24, donc là, 2h50 du matin,
couché,
il est là.
Non,
merci à toutes les deux, à tout à l'heure. On va décrire ce qui s'est passé pendant ce temps-là ici, puisqu'il s'est passé plein de trucs depuis le podium du marathon à maintenant.
Alors, moi je veux revenir un peu sur les bénévoles à qui on a rendu hommage. Ils étaient 45 000, super, ils ont choisi 4, à qui ils ont bien beaucoup de fleurs. On va quand même être très honnête, on va rappeler que quasiment un tiers des bénévoles ont démissionné. Car un bénévole peut démissionner. Ils sont barrés, 14 000 d'entre eux. Pourquoi? Parce que conditions improbables. On demandait à des apprentis infirmiers d'être médecins. On demandait à des stagiaires de faire la sécurité à l'extérieur des sites. Ils avaient droit à un sandwich par jour et un seul par jour, donc 14 000 du monde entier, des Argentins, des Anglais. Ont quitté les jeux. Bon, apparemment, il y a 30 000 qui étaient contents. On leur a rendu hommage. On a vu également Elena Isibayeva, parce qu'on parle d'hypocrisie.
On a vu les nouveaux élus,
la commission des athlètes. Elle a été élue il y a une semaine, Isibayeva. Il y a 3 semaines, elle balançait comme personne sur le CIO et les 2F, surtout la Fédération internationale. On en a parlé hier. Il y a 3 jours, elle a dit non, en fait, je me suis trompé, tout va bien. Pourquoi elle est balancée? Parce qu'elle avait été interdite de participation aux Jeux Olympiques, comme la plupart de ses camarades russes.
Et là, actuellement, donc, c'est le passage.
Nicolas.
Non, mais c'est l'hypocrisie, mais bon, c'est pas grave, c'est la politique.
C'est le passage de relais là actuellement entre Rio, donc qui a accueilli ces Jeux Olympiques, et Tokyo 2020. On vient de transmettre le drapeau olympique, donc c'est Eduardo Paes, le maire de Rio, qui a donné le drapeau olympique au gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, actuellement. C'est incroyable, on a placé au milieu du Maracana un tuyau vert, le tuyau vert que l'on voit habituellement dans Super Mario Bros, le fameux jeu vidéo japonais, puisqu'on a en train de passer un clip
incroyable
qui présente un petit peu tous les grands moments du Japon. Et Mario, Super Mario, qui est en train, c'est le premier ministre japonais qui
incroyable.
Est là.
Incroyable.
C'est le premier ministre qui est déguisé en Super Mario. Ah, mais c'est incroyable, on va vous imaginer François Hollande.
C'est sympa.
Pour Paris 2024. Pour les gars, on a une scène actuellement, voilà les petits clips pour présenter.
C'est bon, ça.
On espère que dans 4 ans, jour pour jour, à la même heure, on aura une Marseillaise et on aura François Hollande ou Fontevaquie d'ailleurs.
Gaston Lagarde. Très bon.
En tous les cas, voilà, il y a un petit clip là qui présente un petit peu la culture japonaise. Une culture qui est quand même une culture manga, une culture geek. On a vu les images de Olivier Tom, notamment, comment on l'appelle, Captain Tsubasa au Japon. Donc le fameux manga de football qui fait un tabac
également ici au Brésil. On a vu des stars des mangas, Doraemon, si vous connaissez, Hello Kitty. On a vu également évidemment les rues de Tokyo avec le passage piéton de Shibuya, avec des millions de personnes qui passent dans tous les jours sur ce passage piéton. Et là actuellement donc ce tuyau vert de Super Mario avec le premier ministre japonais qui en est sorti.
Mais ça c'est quand même incroyable cette histoire.
Là ils tapent un grand coup hein, quand même. C'est impressionnant ce qu'ils font. Hein.
Ils sont exactement venus nous chercher là, on veut les trouver dans la culture japonaise internationale, le jeu vidéo. Et le plus grand emblème pour notre génération JBR des années 80, c'est Mario, évidemment. Mario, Olive et Tom. Ça promet de gros moyens et un gros spectacle dans 4 ans.
Mario, attention, hein, Mario qui est la mascotte peut-être de Tokyo, mais Mario qui appartient aussi, qui est une image des Jeux Olympiques. Il y a un jeu vidéo qui sort tous les 4 ans. Mario aux Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a un lien quand même entre Mario et les Jeux Olympiques. Donc on profite de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups, on va dire, du côté de Tokyo et du côté du CIO. D'ailleurs, juste si vous voulez découvrir un peu les sites de Tokyo 2020, c'est assez facile. Le compte Twitter de Tokyo 2020 aujourd'hui a montré un petit peu tous les sites. Donc c'est possible de les voir sur tous les tweets qui ont été montrés aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'arènes qui existent déjà.
C'est quoi le compte?
C'est Tokyo 2020. Tokyo 2020, donc pour voir un petit peu toutes les arènes qui existent déjà. Tiens, attends, regarde, on va en trouver quelques-unes, alors qu'on voit que la Tokyo Tower, notamment qui ressemble à la Tour Eiffel, est beaucoup mise en valeur dans la candidature du Japon. Bah voilà, j'en ai quelques-unes sous les yeux. On regarde l'arène de volleyball, l'Ariake Arena, qui va être construite dans quelques années. L'arène de waterpolo qui existe déjà. Regardez, puisque c'est une photo du jour, la
Center,
qui est des arènes qui existent depuis très longtemps. Regarde, 1964, hein, quand Tokyo avait déjà accueilli les Jeux Olympiques, la Yoyogi National Arena qui accueillera notamment le handball, donc les experts qui essaieront peut-être de redécrocher une médaille d'or dans cette enceinte-là. Donc voilà, c'est assez sympa, on peut voir assez facilement les enceintes qui vont accueillir les prochains Jeux Olympiques, donc en 2020 au Japon, où il est actuellement 9h du matin, je crois. Hein. Donc là, ils sont en train de se réveiller avec la cérémonie d'ouverture, ils ont pu voir le passage.
Il est passé où le Premier ministre? Il est redescendu dans le tuyau?
Et peut-être qu'il a été touché par un ennemi et que du coup il est devenu tout petit. Parfait, comme dans Super Mario, par un ennemi, je sais pas. Tu vois. Comme dans il a perdu une vie.
J'ai une pensée pour Morgan Karate Kimuri qui est en larmes là, qui est très ému. Aux larmes, lui le plus japonais des commentateurs français.
Ouais, on pourra apprendre quelques mots. D'ailleurs, on a vu des petites traductions. Hein, obrigado, merci en brésilien, qui a été transformé en arigato. Donc le merci japonais, on apprendra
arigato
quelques mots.
Arigato gozaimashita.
Arigato gozaimasu. Merci beaucoup également. Voilà. Itadakimasu. Bon appétit. Et okonjo kudasai. L'addition, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je sais dire.
Joli.
Tu sens quand même qu'il met ses moyens et voir plus que ce qu'on a vu pour l'instant. Effectivement, c'est une culture totalement différente, évidemment. Mais en général, les passations que tu connais, soit de drapeau, c'est beaucoup moins conséquent, beaucoup moins important.
Non, là, tu sens qu'ils ont pris les choses en main. Voilà. Ils ont peut-être financé leur parti également.
On est quand même face au pays le plus moderne du monde, hein, pratiquement le Japon, le pays est plus développé, donc qui nous montre toute sa puissance technologique, on va dire. Là, on voit des néons bleus, blancs, rouges. Et donc,
on a quand même eu d'autres moments, là, pendant les interviews de nos sportifs tout à l'heure, d'autres moments qui sont les moments traditionnels de Samuel Couture. Le drapeau grec qui a été hissé, puisque la Grèce, c'est le berceau originel des Jeux Olympiques, bien sûr. L'hymne grec qui a été joué. Alors ça, tout ça, c'est un cérémonial qui avait été inventé par Pierre de Coubertin et qui existe encore aujourd'hui. Donc voilà. Tiens, j'ai appris une histoire assez à propos d'hymne. C'est Daniel Constantini qui a raconté ça tout à l'heure. Je ne savais pas. Vous savez pourquoi les hymnes se jouent à chaque fois avant les matchs de Sport Co, là maintenant, aux Jeux Olympiques?
Ah, je l'ai entendu, donc vas-y.
En fait, ça se faisait pas du tout avant, c'est à cause des ricains.
Eh oui.
À cause de la Dream Team en 92, que les États-Unis, le culte de l'hymne aux États-Unis, la Dream Team en 92 a exigé que l'hymne américain soit joué avant chaque match des États-Unis. Alors qu'avant, aux Jeux, l'hymne était joué une fois, pour les matchs, et après, il était plus joué du tout, sauf pour la médaille, éventuelle.
Mais donc, il était diffusé pour le premier match, l'hymne, par exemple, pour l'entrée en lice.
Et donc, à partir de 92, on a fait tous les hymnes pour tous les matchs de tout le monde.
Voilà.
Du fait des Américains.
Attends, mais il y a eu l'hymne pour tous les matchs là de
Champions League. Non, il y a certains matchs, par exemple, dans les matchs de volley en phase de poule,
Pas les hymnes, c'était la remarque.
Mais par exemple au hand, au waterpolo, il y avait les hymnes systématiquement. Après, c'est peut-être les fédérations internationales qui mettent leur grain de sel là-dedans. Impressionnant le spectacle là. See you in Tokyo, le message final donc pour la délégation japonaise ici venue prendre le relais, le témoin des mains des Brésiliens. Le feu d'artifice, alors tout ça est dirigé d'ailleurs par un Français. Hein. Comme lors de la cérémonie d'ouverture, c'est Christophe Bertoneau, le chef artificier de ce feu ici au stade Maracana pour cette cérémonie de clôture.
Et juste avant que le feu d'artifice ne soit tiré dans le ciel de Tokyo, on a vu sortir du petit tuyau vert de Super Mario, l'un des nouveaux symboles de Tokyo, c'est la Tokyo Skytree. Tu sais, la Tokyo Skytree, c'est l'une des plus grandes tours du Japon désormais, qui fait, je crois qu'elle fait deux fois la Tour Eiffel, deux fois et demi la Tour Eiffel. Donc tu mets deux fois et demi la Tour Eiffel et t'as la Tokyo Skytree qui sert notamment pour, c'est une antenne relais pour les nombreuses télévisions japonaises. Donc ce sera l'un des symboles de Tokyo 2020.
Alors que Thomas Barr, le président du CIO, est sur la scène et qu'il va être rejoint par monsieur Nussmann,
Carlos
qui
Nussmann,
est l'organisateur en chef de ces jeux.
Ancien volleyeur
international, exactement.
Thomas Barr, un champion olympique d'escrime quand même. Hein.
Thomas Barr, exactement, qui a un passé de sportif.
76.
Voilà,
monsieur Nussmann. Je suis même très inquiet pour le Premier ministre japonais. Hein,
mais oui, c'est
vrai. On va revu disparaître dans le tuyau.
Ah, il y a un petit souci là, on n'arrive pas à enlever le tuyau de Mario Kart.
Bah peut-être.
Il est resté bloqué sur la première athée de la candidature japonaise.
Voilà, bah peut-être que le Premier ministre est en dessous.
D'ailleurs, ils sont en train de s'y mettre à une quinzaine pour pousser le tuyau là.
Alors que Super Mario, lui, pourrait le pousser d'une main.
Voilà. Tiens, profitons-en pour donner l'heure, puisqu'il est pile 3h sur RMC.